cœur. Nous sommes constamment en tout ce que nous faisons, même les meilleures choses, nous avons besoin d'être pardonnés. Nous allons chanter au Seigneur parce que nous ne nous arrêtons pas sur notre péché. La grâce du Seigneur abonde au-dessus de notre péché, n'est-ce pas? Et nous allons chanter le 241 dans le recueil, mais à un air différent que Nicky vient de vous jouer. Christ éternel rocher. Alors les enfants, je veux vous demander de faire une chose avec moi, d'accord? Vous allez m'aider avec la toute première phrase de ce chant. Alors les adultes, s'il vous plaît, ne dites rien. Je veux entendre la voix des enfants. Ok, vous pouvez répéter après moi. Ô Christ. Encore. Ô Christ. Éternel. Rocher.
Rocher.
Je viens. En toi. Me cacher. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Vous êtes venu pour toujours vous cacher en Christ comme votre sauveur? Voilà ce que nous allons chanter. Ô Christ, éternel rocher, je viens en toi me cacher. Il y a 4 versets. Oui. Christ éternel rocher, je viens en toi me cacher, de ton cœur percé couler l'eau, le sang qui régénère, que par ce flot rédempteur du péché, je sois vainqueur. Tous les travaux de mes mains pour te plaire seraient vains. L'homme aime quand ma détresse mes pleurs couleraient sans cesse, il ne saurait me laver, toi seul peux rêve sauver. Seigneur, je n'apporte rien. Toi seul est mon soutien, je viens à toi sans ressource, souillé je viens à la source, ouverte pour les pécheurs, ah, rends-moi pur où je que je respire encore, quand pour moi viendra la mort, lorsque je devrai paraître devant mon juge et mon maître. Ô Christ éternel rocher, je veux en toi me cacher. Un chant avant de passer au message et avant que les enfants ne nous quittent. C'est un chant d'aspiration que nous avons prié en chantant. C'est dans le carnet noir, le numéro... combien Nicky, tu l'as ? 20, le numéro 20. Au Saint-Esprit... descend.
Esprit, descend, descend sur cette assemblée en prière, en nos cœurs faibles languissants, répands ta force et ta lumière. Ô Saint-Esprit, dévoile-nous nos interdits et nos idoles. Esprit du Dieu Saint, à nous conflue nos désirs frivoles. Ô Saint-Esprit, attaque la terre. Nous voulons tous marcher sans crainte sur un chemin de sainteté. Conduis-nous vers la cité sainte. Ô Saint-Esprit, descend, descend sur cette assemblée en prière, en nos cœurs faibles languissants, répands ta force et ta lumière.
Les enfants peuvent aller avec Nikki. Nikki, bon courage. Si tu as besoin du renfort, fais-nous. Oui. Crie fort. Je vous invite à trouver Colossiens chapitre 3 dans votre Bible. Colossiens 3, nous relisons encore les versets 1 à 11. Que nos cœurs soient ouverts à la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit à travers l'apôtre, « Si donc vous êtes ressuscités, il faudrait mieux traduire, « puisque donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut, et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu, votre vraie vie. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire, dans la plénitude de votre vraie identité. » Mais maintenant, il faut revêtir cette identité déjà de plus en plus. Faites donc mourir votre nature terrestre ou vos membres qui sont sur la terre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchiez autrefois, ainsi autrefois. Littéralement, vous marchez dedans. Il y a des choses dans lesquelles on ne veut pas marcher, n'est-ce pas? Mais on marchait dedans autrefois. Lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela. Colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous qui avez dépouillé le vieil homme avec ses pratiques et revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle constamment en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a là ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais dans cet homme nouveau, dans cette humanité nouvelle, Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, ça va sans doute être le cas parfois parmi nous, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Nous avons chanté juste avant de commencer, « Ô Saint-Esprit, à ta clarté, nous voulons tous marcher sans crainte sur un chemin de sainteté, conduis-nous vers la cité sainte. » Un chemin de sainteté qui mène vers une cité sainte. C'est une belle image de la vie chrétienne. Si je vais aller en France, il faut que j'apprenne le français. Et je me souviens que Nicky était un peu paniqué il y a à peu près 30 ans quand le jour est venu pour se mettre sur l'avion. Parce que quand on est en France, on vit dans le français. Et si on va vers une cité sainte, alors commencez déjà à apprendre le langage, la musique du ciel, qui est une vie sainte et bonne et juste. Nous avons vu rapidement dans les semaines précédentes que votre sanctification chrétienne n'est pas basée sur des principes, des doctrines ou des pratiques que vous devez appliquer, même si ça existe dans la vie chrétienne. Mais le fondement de votre transformation est quelque chose qui est arrivé, c'est un fait historique. Il y a 2000 ans, sur la croix de Jésus, le Christ lui-même tout seul a renversé le rapport de force entre vous et le péché, entre vous et le royaume des ténèbres, entre vous et l'ancienne humanité dont vous faisiez partie. À la croix, Jésus a créé une nouvelle humanité dont il était le premier à faire partie. Et maintenant, il vous a amené dans cette nouvelle humanité. Et vous êtes en train d'extirper les restes de l'ancienne humanité que vous êtes tellement habitué à être, mais que vous n'êtes plus du tout. Vous êtes comme le papillon. Il n'y en a pas comme ça, hein. Mais vous êtes comme un papillon qui doit se rappeler, je ne suis plus chenille. Je ne rampe plus dans la boue. Et il doit penser justement, non pas pour se rendre papillon, mais parce qu'il est papillon. Et donc nous sommes de nouvelles créatures en Christ. Nous avons vu ensuite que la démarche chrétienne de transformation, de sanctification, a deux parties. Deux ailes de l'avion. Et donc c'est dépouiller les vices pécheurs et revêtir les vertus chrétiennes. Et nous avons parlé pourquoi Dieu nous parle dans cette métaphore d'habillement et comment ça nous aide. Maintenant, aujourd'hui, nous allons nous demander tout simplement de quoi devons-nous nous dépouiller et nous revêtir. Et on ne va peut-être pas arriver à finir tout cela, mais nous allons chercher Dieu dans sa parole et essayer de nous fixer dans notre esprit le but. Vous savez que, et ça c'est mon premier point, le Seigneur veut que vous ayez une démarche intentionnelle et réfléchie par rapport au développement de votre caractère chrétien. D'accord ? Il y a trop de chrétiens qui n'y pensent pas. Je crains. Je suis sûr que je n'y pense pas assez moi-même. Mais dans le passage, est-ce que vous avez lu, Paul a toute une liste de choses très spécifiques et il les organise même dans des catégories. Il est très réfléchi. Il est très intentionnel. Il sait exactement où il veut qu'on aille. Où il veut aller lui-même, sans doute. Et où il faut que nous allions dans notre caractère qu'est-ce que nous allons devenir? Quand mes enfants étaient jeunes, à peu près ton âge, on jouait un jeu parfois à table, un jeu un peu embarrassant, mais drôle aussi, on rigolait. Je demandais, ok, chacun va dire au sujet de la personne à sa droite, quelle est la qualité qui te plaît le plus dans son caractère et quel est le défaut que tu vois le plus visiblement dans son caractère. Et donc, quand ma petite Caroline était à ma gauche et elle devait dire au sujet de papa quel était son défaut le plus visible, elle n'a pas raté, elle a tapé dans le mille. Mais pourquoi est-ce que nous avons joué ce jeu? C'est pour que les enfants commencent déjà à penser très spécifiquement et de manière réfléchie sur les vertus et les vices, sur le caractère. Pour ne pas être dans le flou, oui, il faut être une bonne personne. Non. Mais pour aller plus loin que cela. Et le Seigneur veut que vous aussi et moi, que nous ayons une démarche vraiment intentionnelle et réfléchie au sujet du caractère chrétien. Et maintenant, nous pouvons nous poser la question, premier point écarté, de quoi devez-vous vous dépouiller? Je voudrais vous dire deux choses générales d'abord. La première chose, c'est que ici en Colossiens 3, les versets 5, 8 et 9, vous n'avez pas une liste exhaustive. D'accord? Je le sais parce que si je vais vers Éphésiens 4, qui est le passage parallèle à Colossiens 3, il y a d'autres vices qu'il n'a pas mentionnés ici. D'accord? Il y a d'autres vertus. Sans doute, Paul sait quelque chose sur l'église de Colosse et il parle dans leur contexte. D'accord? Mais nous pouvons extrapoler, excusez-moi pour le mot, nous pouvons comprendre d'autres par la liste que nous avons ici. Deuxième chose générale que je veux vous dire, c'est que on va regarder ces trois catégories. Regardez avec moi. Le verset 8, le premier groupe de péchés. Mais maintenant, pardon, le verset 5 plutôt. Faites donc mourir votre nature terrestre, c'est-à-dire l'inconduite, c'est un mot qui parle de l'inconduite sexuelle, l'impureté sexuelle, les passions sexuelles, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Alors, je vais vous en parler plus tout à l'heure. Mais ça, c'est donc le premier groupe. Et vous voyez que c'est beaucoup autour de cupidité, de désir. OK? Deuxième groupe. Le verset 8. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela, colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. C'est différent, n'est-ce pas? C'est un groupe différent. Et le troisième groupe, c'est le verset 9, ne mentez pas les uns aux autres. Alors, on va les regrouper comme cela. Une sangsue, une moufette, et désolé, un arracheur de dents. Bon, qu'est-ce que ça peut bien. Ok, la sangsue. Il y a un groupe de péchés dans votre vie et ma vie. C'est un peu comme une sangsue. Vous savez, la sangsue, il veut tout aspirer, n'est-ce pas? Il est égoïste, il est avide, avidité, cupidité, c'est moi je veux pour moi. Et donc, il veut tout exploiter pour lui et tout prendre à lui. OK? Et donc, ça, c'est le premier groupe de péchés. Et souvent, quand on est adulte, cette avidité, cet égoïsme s'exprime dans le domaine sexuel. D'accord? Deuxième groupe, la moufette. Je ne sais pas si vous avez jamais eu affaire avec une moufette. Moi, une seule fois dans ma vie, voilà une moufette qui est là dans notre jardin, chez mes parents, à côté d'un arbre. Et vous savez, quand on s'approche d'une moufette, qu'est-ce qui arrive? Il émet une odeur. Mais puante, terrible. Vous savez pourquoi? Parce qu'il veut vous repousser. C'est une attaque. Il veut vous repousser. Donc, le deuxième goût de péché, c'est pas aspirer à vous, mais repousser de vous. Regardez, c'est des péchés d'antagonisme. Animosité, qu'est-ce qu'il a dit? Colère, méchanceté, calomnie. Alors ça, c'est tous des choses pour repousser l'autre, pour attaquer l'autre. Il y a ce groupe de péchés aussi, et nous, parfois, nous avons envie de faire mal, de détruire, de repousser. N'est-ce pas? Le troisième groupe de péchés, c'est l'arracheur de dents. Ok. Autrefois en France, il n'y avait pas de dentiste, vraiment, comme nous les avons aujourd'hui. Mais il y avait des arracheurs de dents. Et lorsque vous aviez un problème, alors vous alliez chez l'arracheur de dents. Et donc, en France, on a une phrase. On dit « mentir comme un arracheur de dents ». Vous savez pourquoi? Parce que quand vous arriviez et il vous disait « asseyez-vous là », vous savez, la prochaine fois qu'il sortait de sa bouche, ça ne va te faire aucun mal. Mentir comme un arracheur de dents. Et donc, si le premier groupe de péché, c'est une manière d'exploiter l'autre pour soi, et le deuxième groupe de péché, c'est une manière d'attaquer l'autre et de repousser, de lui faire mal, le troisième groupe de péché, c'est une manière d'égarer l'autre, de l'envoyer sur une chose qui n'est pas vraie. Et si nous prenons ces trois choses, nous avons à peu près les trois grands domaines où nous péchons constamment. Censure, moufette et arracheur de dents. Ok, nous allons juste prendre le premier groupe, les péchés d'immoralité sexuelle. Et vous savez ce qu'on va appeler ça? On va appeler ça anti-amour dans la forme de convoitise. Alors, je vous relis le verset 5. « Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » Alors, les commentateurs nous disent que les trois premiers mots sont des mots qui parlent de la sexualité presque toujours dans le Nouveau Testament. Ok? L'inconduite, c'est le mot, excusez-moi, pornéa, vous savez, ça tire le mot pornographie. Ok? L'impureté, les passions, ça parle d'un abus de la sexualité. Les deux derniers mots semblent être plus généraux. Regardez, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Donc souvent, les gens pensent que, bon, ils parlent de sexualité, et puis ensuite, ils vont sur autre chose, c'est le matérialisme. N'est-ce pas? C'est la cupidité, on veut beaucoup de choses, de l'argent. Mais je crois qu'il est bien probable que Paul utilise ces deux mots, mauvais désir et cupidité, pour parler de la cupidité sexuelle, l'avidité sexuelle. Je vous dis pourquoi. Le mot qui traduit cupidité ici, excusez-moi de vous donner le mot en grec, ça, c'est le mot pléonexia. Alors, dans Éphésiens chapitre 4 et 19, ce même mot est employé pour décrire les désirs sexuels qu'on a de manière avide. Je vous lis le verset. « Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité, pléonexia, toutes sortes d'impuretés. De commettre avec avidité le péché sexuel. » On ne peut pas être sûr là-dessus. Il se peut que Paul soit en train de dire en quelque sorte « Ces péchés sexuels, je les mets dans le même panier avec l'avidité, la cupidité en général, parce que ça sort de là. » Ça sort de là. La personne qui est avide, qui aspire pour lui-même, qui est égoïste, il va probablement être égoïste dans le domaine sexuel. Et avide. Alors, donc, nous pensons à quoi? Nous pensons à l'adultère, à la fornication, donc c'est des relations sexuelles entre personnes qui ne sont pas mariées, la pornographie, qui est un fléau aujourd'hui, la masturbation, l'homosexualité, la pédophilie. Excusez-moi de devoir nommer ces choses, mais je les mets devant vous. Et le Seigneur nous dit que ces conduites-là appartiennent à l'ancienne humanité, déchue. Et il nous dit que c'est carrément une forme d'idolâtrie. Vous savez que quelqu'un qui veut quelque chose tellement que ça commence à préoccuper toute sa vie, à être le centre de sa vie, pour combien de personnes en France est-ce que la sexualité est un peu le pivot? Allez regarder les films. Allez regarder les pubs. Écoutez les plaisanteries au travail. Vous ne savez personne qui attend juste le moment où il peut raconter une blague de connotation sexuelle. Parce que c'est là qu'il habite. C'est une sorte d'idolâtrie. Combien de personnes sont esclaves à la pornographie aujourd'hui? Combien de jeunes hommes? Et c'est un terrible esclavage. Mais le Seigneur est en train de nous dire sans doute que le problème n'est pas d'avoir des désirs sexuels. Le désir sexuel, Dieu l'a fait, n'est-ce pas? C'est légitime dans sa bonne place du mariage où c'est encadré par un amour qui veut donner plus que recevoir. D'accord? C'est pas au sujet de moi. Mais le Seigneur veut vous dire et me dire que le problème du sexualité, du péché sexualité, c'est cette avidité, cette attitude terrible et horrible de sensu. Je reviens là-dessus tout à l'heure. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le péché sexuel m'amène toujours à regarder l'autre, non pas comme une personne, mais comme un objet pour mon plaisir. Donc, quand je suis dans la convoitise sexuelle illégitime, je dépersonnalise la personne et je fais de cette personne un simple objet pour mon exploitation. Et c'est ça le problème. C'est pour cela que c'est un péché. On avance vers les péchés d'antagonisme. Vous voulez? On regarde le verset 8. Le verset 8. On doit le relire juste pour le fixer bien dans la tête. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela, colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Je crois des paroles méchantes, grosses, qui font mal, qui blessent. Et donc là, nous avons besoin de penser à la manière dont nous ici, nous sommes agressifs. L'agressivité dans le foyer, dans le couple, le sarcasme, des paroles trop brusques, trop abruptes, où nous refoulons l'impatience avec nos enfants, n'est-ce pas? La colère au travail. L'agressivité vraiment sur le lieu de travail est très courant et nous guette aussi dans les voisinages. Combien de problèmes dans les voisinages, de conflits, de relations conflictuelles, de repousser l'autre, de le faire de mal, calomnie dans nos quartiers difficiles. Qu'est-ce qui vient d'arriver à Nantes avec tellement de voitures incendiées? Tout cela part de la même source. Des facultés saccagées à Montpellier. La colère, l'animosité, traduit non pas par une action constructive pour changer les choses, mais par un cœur qui veut juste détruire et faire mal. Mais ça nous concerne nous, n'est-ce pas? Lorsque quelqu'un nous va à l'encontre de notre volonté au magasin, n'est-ce pas? Ou dans n'importe quel aspect de notre vie, nous pouvons tomber dans ces anciennes manière de vivre. Et je rencontre des gens qui sont dévorés et qui me disent, depuis des années, des années, des années, par la haine, l'amertume, la rancune contre quelqu'un. Souvent, dans leur propre famille, des personnes, on me dit que je n'ai pas parlé avec ma sœur depuis 10 ans. Je n'ai pas eu de contact avec ma maman depuis 20 ans. À cause de péché d'antagonisme. Oh, qu'il est beau ce caractère du Seigneur qui aime, qui pardonne et qui ne refoule pas. Dernière catégorie de péché, c'est le péché de l'arracheur de dents. Le péché de malhonnêteté, c'est l'anti-amour aussi, parce qu'on ne ment pas à celui ou celle qu'on aime. L'Apocalypse nous dit ceci, écoutez bien, « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps brûlants de feu et de soufre. » C'est la seconde mort. Ce monde, cette ancienne humanité dont nous faisons partie, boit le mensonge, respire le mensonge. Alors, je veux vous prouver cela pour que nous ayons envie de quitter tout cela. Alors, je veux faire un test. Vous allez me dire dans quel métier est-ce qu'on ment le plus. Je vous donne quelques métiers où le mensonge est très généralisé. Politicien, si je suis élu, je vais faire avocat. Il n'est pas coupable. Les gens de publicité, les vendeurs, les garagistes, je n'utilise que des pièces d'origine. Ne vous inquiétez pas. Les médias. Vous avez entendu parler de cette nouvelle phrase, le fake news. Les agents immobiliers. Ou peut-être c'est les étudiants. L'art de tricher, très développé. Ou peut-être c'est les chercheurs d'emploi. Ça, c'est mon CV. Regarde tout ce que j'ai fait. Eh bien, les scientifiques. Dont certains passent leur vie à essayer de faire tenir debout un grand mensonge qui dit que Dieu n'a pas créé le monde. Alors vous, Dieu vous appelle à porter son image. L'homme nouveau se renouvelle dans l'image de celui qui l'a créé. Ô Dieu de vérité. Combien c'est bien d'avoir un ami qui te dit toujours la vérité. Parce qu'il veut ton bien. Alors, je veux finir en demandant rapidement comment est-ce que Dieu nous motive de nous détourner de tous ces péchés. Alors, je vais vous donner 3 points, mais on va aller rapidement dessus. Regardez avec moi le verset 6. C'est pour cela, en parlant des péchés sexuels, il dit « C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles ». Si vous allez être motivé pour vous détourner du péché sexuel, vous devez savoir que les péchés sexuels font partie de ce qui attire la colère de Dieu sur l'ancienne humanité et Dieu va complètement éradiquer toute cette ancienne humanité de la terre un jour à cause de, entre autres, le péché sexuel. Et ça suffirait pour Dieu comme raison de balayer. Alors, ce n'est pas parce que le péché sexuel est pire que les autres qu'on doit penser à la colère de Dieu quand on pense au péché sexuel. Vous savez que souvent dans le Nouveau Testament, quand on vous dit « détournez-vous du péché sexuel », on vous dit tout de suite « la colère de Dieu vient à cause de ça ». Pourquoi est-ce que Dieu nous rappelle, surtout concernant le péché sexuel, que ça attire sa colère? Je pense que c'est parce que nous sommes plus facilement trompés ici qu'ailleurs. Et le monde et notre cœur nous trompent en nous disant « c'est un désir naturel ». C'est un désir, Dieu m'a fait avec ses désirs. Comme, ça doit être légitime de l'exprimer, je ne peux que l'exprimer. Et donc, nous pensons et nous nous trompons en pensant qu'il y a une légitimité dans le fait d'exprimer le désir sexuel de manière complètement avide, cupide et égoïste. Et c'est pour cela que Dieu nous dit « Je suis royalement fâché avec la cupidité égocentrique, radicalement destructrice du péché sexuel. » Les péchés sexuels, chers amis, ne sont pas une expression d'un désir corporel. Le péché sexuel est un péché relationnel, l'expression de quelque chose dans le cœur. Jésus dit que l'adultère sort du cœur, non pas du corps. D'accord ? Je vous prouve ça tout de suite. Un bon père normal, qu'il soit chrétien ou même non chrétien, pourtant que je sache, n'a jamais une tentation sexuelle vis-à-vis de sa propre fille. Même quand elle grandit, même quand elle est très belle, j'ai deux filles adultes très belles, et je n'ai pas besoin de lutter contre la tentation sexuelle vis-à-vis de ma fille. Ça ne m'arrive jamais d'avoir une tentation quelconque à leur égard. Mais elles sont belles. Pourquoi? Parce que le péché sexuel, la tentation sexuelle ne vient pas du corps, mais du cœur. Et seulement quand l'amour ne règne pas, l'amour qui pense à la personne tout entière et ce qu'elle est. Je ne peux que regarder ces deux filles comme mes filles. Comme mes filles que j'ai prises dans mes bras depuis qu'elles sont bébés. Ça, c'est mes filles. Je ne peux pas les regarder comme un objet sexuel. Pour mon égoïsme, c'est impossible. Mais c'est une affaire de l'attitude morale du cœur qui fait que des filles moins belles, je pourrais les convoiter du regard dans la rue, malheureusement, et devoir demander pardon au Seigneur, mais vis-à-vis de mes propres filles, ça ne m'arrive jamais. Non, ça va, vous êtes d'accord avec moi? Le péché sexuel n'est pas une question d'hormones, mais une question de l'état du cœur qui est égoïste et qui peut regarder quelqu'un simplement comme un objet pour moi, ou une question d'amour qui regarde la personne telle qu'elle est, faite par Dieu. Donc, quand nous comprenons cela, nous comprenons mieux pourquoi la colère de Dieu vient sur le monde. Parce que cette avidité tellement radicalement égoïste dans le péché sexuel, c'est une vaste force de destruction dans l'histoire humaine. David, le roi David, à cause de cette avidité sexuelle, il prend la femme d'une autre et fait tuer le mari par désir pour sa femme, Samson. Il finit par avoir les yeux crevés parce que ses deux yeux regardaient trop des femmes et voulaient les prendre. Le péché, cette avidité sexuelle a mené à une industrie mondiale de génocide dans notre génération. On appelle ça l'avortement. Le désir de vouloir avoir le plaisir, plus toujours plus de plaisir sexuel, a poussé l'humanité à fabriquer une manière de tuer par des millions et des dizaines de millions de millions de millions de bébés pour une seule raison. J'en veux plus de plaisir sexuel. Vous voyez pourquoi la colère de Dieu vient sur le monde? L'adultère qui crée des milliers et des milliers de divorces, de familles brisées, enfants traumatisés, seulement parce que je voulais avoir pour moi, ce plaisir illégitime. Et la convoitise sexuelle qui amène malheureusement des hommes à poursuivre, à violer et à tuer des femmes qu'ils ne connaissent même pas. Qu'ils ne connaissent même pas. L'avidité sexuelle attire la colère de Dieu, non pas parce que c'est sexuel, mais parce que c'est incroyablement haineux et égoïste. Et qui. Oui. Ça, c'est la première motivation. La deuxième motivation se trouve dans le verset 7 et 11, et 9 à 11. Regardez le verset 7. Il faut que je me dépêche. Vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Sous-entendu, vous n'êtes plus dans ce pays. Ce n'est plus votre identité. Vous n'êtes pas ça. Et puis, les versets 9 et suivants nous détaillent cela. Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé le vieil homme avec ses pratiques et revêtu le nouvel homme qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. La deuxième motivation est celle dont nous avons parlé déjà dans les séances précédentes, mais je veux juste vous résumer un peu cela parce que c'est tellement vital pour nous de comprendre. Sinon, nous ne nous embarquons pas sur un chemin chrétien de sanctification, mais un chemin moraliste. Et ça ne marche jamais. Donc, je vous rappelle que dans la vie chrétienne, la pureté sexuelle ou l'amour ou toutes les vertus chrétiennes ne sont pas des idéals que Dieu place devant nous et il nous dit « vous devez être ça ». D'accord? Ce n'est pas comme cela que ça marche. On ne regarde pas ces vertus comme quelque chose qu'on n'a pas, mais qu'on devrait être. Et si on n'y arrive pas, on n'est pas à la hauteur. Vous voyez le problème avec une telle motivation? Dès que vous êtes dans la motivation que je ne suis pas ça, mais il faudrait que je sois là, tout devient orienté autour de moi. Et comment je m'en sors, n'est-ce pas? Je suis un grimpeur d'échelle vers Dieu et vers la vertu, n'est-ce pas? Et maintenant, je me regarde comme, ah oui, j'y arrive pas, et je me sens coupable, et tout tourne autour de moi, et ma capacité ou non d'y arriver. Il n'y a rien de pire pour la transformation chrétienne, d'accord? Maintenant, quel est notre chemin? Selon ces versets, vous avez dépouillé l'ancien homme et vous avez revêtu l'homme nouveau. Par la pure grâce de Dieu, maintenant ces vertus sont vous. Ce n'est pas une chose à laquelle vous devez arriver, quelque chose, mais quelque chose qui est vous en Christ et que vous devez tout simplement laisser ça s'exprimer. C'est comme le papillon. On va pas lui dire, faudrait que tu deviennes papillon un jour. On dit, tu es papillon, vole-moi maintenant. Laisse venir tout ce que tu es devenu. Allez-y, essaye, tu verras. Tu es devenu. C'est pas toi qui a fait ce changement. C'est un don, c'est une grâce. Vous êtes de nouvelles créatures, chers hommes et chères femmes. Si vous êtes en Christ, vous avez un cœur nouveau. Il y a des restes du péché qui peuvent vous faire penser que vous êtes l'ancien homme, mais c'est un mensonge. Comptez-vous comme mort au péché et vivant à Dieu en Christ. Nourrissez-vous. Et on va voir tout cela la semaine prochaine, Dieu voulant, comment faire cela. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que nous regardons pas dans le sens de quelque chose que j'arrive pas à faire, mais quelque chose de merveilleux que Dieu me donne et il fait de moi. Donc l'orientation n'est pas au sujet de moi et si j'y arrive, mais l'orientation est au sujet de Dieu et ce qu'il me donne et ce qu'il fait. C'est merveilleux. Et je dis, mais c'est vrai? Christ est en moi, Christ est le vrai moi maintenant, dans un sens, non pas que je suis Christ, mais ma personnalité ne se trouve que dans la sienne. C'est le début du passage qu'il a dit. Quand Christ, votre vie paraîtra, vous paraîtrez aussi. Parce que Christ est en train de se former en nous. Et donc, nous devons le voir plus de cette manière et nous réjouir et dire constamment au Seigneur, lorsque nous sommes tentés, « Ô Seigneur, je me livre à toi, exprime en moi et à travers moi tout ce que tu es. Fais mourir en moi, régénère-moi, renouvelle-moi. » Et la semaine prochaine, nous verrons un peu en détail la pratique de cela. Mais c'est une manière vraiment évangélique d'être motivé, n'est-ce pas? Ce n'est pas décourageant, c'est très encourageant. Et voilà un peu le tableau de ce que nous devons rejeter, la sangsue, la moufette, pardon, et l'arracheur de dents pour devenir des hommes et des femmes modelés à l'image, à la belle image de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide et nous bénisse. Nous allons chanter ensemble et on va... Colline, est-ce que tu peux aller chercher Nikki?